Chapitre 2. L'éducation des filles comporte des problèmes si graves, car l'avenir d'une nation est dans la mère, que depuis longtemps l'Université de France s'est donné la tâche de n'y point songer. Voici l'un de ces problèmes. Doit-on éclairer les jeunes filles? Doit-on comprimer leur esprit? Il va sans dire que le système religieux est compresseur. Si vous les éclairez, vous en faites des démons avant l'âge. Si vous les empêchez de penser, vous arrivez à la subite explosion, si bien peinte dans le personnage d'Agnès par Molière, et vous mettez cet esprit comprimé, si neuf, si perspicace, rapide et conséquent comme le sauvage, à la merci d'un événement, crise fatale amenée chez Mademoiselle de Watteville par l'imprudente esquisse que se permit à table un des plus prudents abbés du prudent chapitre de Besançon. Le lendemain matin, Philomène de Watteville, en s'habillant, regarda nécessairement Albert Savaron se promenant dans le jardin contigu à celui de l'hôtel de Rupt. « Que serais-je devenu, pensa-t-elle, s'il avait demeuré ailleurs? Je puis le voir, à quoi pense-t-il ? » Après avoir vu, mais à distance, cet homme extraordinaire, le seul dont la physionomie tranchait vigoureusement sur la masse des figures byzantines aperçues jusqu'alors, Philomène sauta rapidement à l'idée de pénétrer dans son intérieur, de savoir les raisons de tant de mystères, d'entendre cette voix éloquente, de recevoir un regard de ses beaux yeux. Elle voulut tout cela, mais comment l'obtenir ? Pendant toute la journée, elle tira l'aiguille sur sa broderie avec cette attention obtuse de la jeune fille qui paraît comme Agnès, ne pensait à rien et qui réfléchit si bien sur toute chose que ses ruses sont infaillibles. De cette profonde méditation, il résulta chez Philomène une envie de se confesser. Le lendemain matin, après la messe, elle eut une petite conférence à Saint-Jean avec l'abbé Giroux et l'entortilla si bien que la confession fut indiquée pour le dimanche matin à 7h30 avant la messe de 8h. Elle commit une douzaine de mensonges pour pouvoir se trouver dans l'église une seule fois à l'heure où l'avocat venait entendre la messe. Enfin, il lui prit un mouvement de tendresse excessive pour son père. Elle l'alla voir dans son atelier et lui demanda 1000 renseignements sur l'art du tourneur pour arriver à conseiller à son père de tourner de grandes pièces des colonnes. Après avoir lancé son père dans les colonnes torses, une des difficultés de l'art du tourneur, elle lui conseilla de profiter d'un gros tas de pierres qui se trouvait au milieu du jardin pour en faire faire une grotte sur laquelle il mettrait un petit temple en façon de belvédère où ses colonnes torses seraient employées et brilleraient aux yeux de toute la société. Au milieu de la joie que cette entreprise causait à ce pauvre homme inoccupé, Philomène lui dit en l'embrassant « Surtout ne dis pas à maman de qui te vient cette idée, elle me gronderait. » « Sois tranquille, répondit Monsieur de Watteville, qui gémissait tout en tant que sa fille sous l'oppression de la terrible fille des deux Rupt. » Ainsi Philomène avait la certitude de voir promptement bâtir un charmant observatoire d'où la vue plongerait sur le cabinet de l'avocat. Il y a des hommes pour lesquels les jeunes filles font de pareils chefs-d'œuvre de diplomatie que la plupart de temps, comme Albert Savaron, n'en savent rien. Ce dimanche, si peu patiemment attendu, vint, et la toilette de Philomène fut faite avec un soin qui fit sourire Mariette, la femme de chambre de Madame de Mademoiselle Watteville. « Voici la première fois que je vois Mademoiselle si vétilleuse, » dit Mariette. « Ah, vous me faites penser, » dit Philomène en lançant à Mariette un regard qui mit des coquelicots sur les joues de la femme de chambre, « qu'il y a des jours où vous l'êtes aussi, hein, plus particulièrement qu'à d'autres. » En quittant le perron, en traversant la cour, en franchissant la porte, en allant dans la rue, le cœur de Philomène battit comme lorsque nous pressentons un grand événement. Elle ne savait pas jusqu'alors ce que c'était que d'aller par les rues. Elle avait cru que sa mère lirait ses projets sur son front et qu'elle lui défendrait d'aller à confesse. Ah, elle se sentit un sang nouveau dans les pieds, Elle les leva comme si elle marchait sur du feu. Naturellement, elle avait pris rendez-vous avec son confesseur à 8h15, en disant que 8h à sa mère, avant d'attendre un quart d'heure environ auprès d'Albert. Elle arriva dans l'église avant la messe, et après avoir fait une courte prière, elle alla voir si l'abbé Giroux était à son confessionnal uniquement pour pouvoir flâner dans l'église. Aussi se trouva-t-elle placée de manière à regarder Albert au moment où il entra dans la cathédrale. Il faudrait qu'un homme fût atrocement laid pour n'être pas trouvé beau dans les dispositions où la curiosité mettait Mademoiselle de Vadeville. Or, Albert Savaron, déjà très remarquable, fit d'autant plus d'impression sur Philomène que sa manière d'être, sa démarche, son attitude, tout jusqu'à son vêtement, avait je ne sais quoi qui ne s'explique que par le mot mystère. Il entra. L'église, jusque-là sombre, parut à Philomène comme éclairée. La jeune fille fut charmée par cette démarche lente et presque solennelle des gens qui portent un monde sur leurs épaules et dont le regard profond, dont le geste s'accorde à exprimer une pensée ou dévastatrice ou dominatrice. Philomène comprit alors les paroles du vicaire général dans toute leur étendue. Oui, ses yeux d'un jaune brun diaprés de filets d'or voilaient une ardeur qui se trahissait par des gestes soudains. Philomène, avec une imprudence que remarqua Mariette, se mit sur le passage de l'avocat de manière à échanger un regard avec lui. Et ce regard cherché lui changea le sang, car son sang frémit et bouillonna comme si sa chaleur eût doublé. Dès qu'Albert se fut assis, Mademoiselle de Vadeville eut bientôt choisi sa place de manière à le parfaitement voir pendant tout le temps que lui laisserait l'abbé Giroux. Quand Mariette dit « Ah voilà, monsieur Giroux !» il parut à Philomène que ce temps n'avait pas duré plus de quelques minutes. Lorsqu'elle sortit du confessionnal, la messe était dite, Albert avait quitté la cathédrale. « Oh, le vicaire général a raison, pensait-elle, il souffre. Pourquoi cet aigle, car il a des yeux d'aigle, s'est-il venu s'abattre sur Besançon? Oh, je veux tout savoir, et comment ? Sous le feu de ce nouveau désir, Philomène tira les points de sa tapisserie avec une admirable exactitude, et voilà ses méditations sous un petit air candide qui jouait la niaiserie à tromper Madame de Vadeville. Depuis le dimanche où Mademoiselle de Vadeville avait reçu ce regard, ou, si vous voulez, ce baptême de feu, magnifique expression de Napoléon, qui peut servir à l'amour, elle mena chaudement l'affaire du belvédère. Maman, dit-elle une fois qu'il y eut deux colonnes de tournée, mon père s'est mis en tête une singulière idée. Il tourne des colonnes pour un belvédère qui a le projet de faire élever en se servant de ce tas de pierres qui se trouve au milieu du jardin. Approuvez-vous cela? Moi, il me semble que... Mais j'approuve tout ce que fait votre père, répliqua sèchement Madame de Vadeville. Et c'est le devoir des femmes de se soumettre à leur mari. Quand même, elles n'en approuveraient point les idées. Et pourquoi m'opposerais-je à une chose indifférente en elle-même, du moment où elle amuse Monsieur de Vadeville? Mais c'est que de là, nous verrons chez Monsieur de Soulas, et Monsieur de Soulas nous y verra quand nous y serons. Peut-être parlerait-on. Et avez-vous, Philomène, la prétention de conduire vos parents et d'en savoir plus qu'eux sur la vie et sur les convenances? Oh, je me tais, maman. Au surplus, mon père dit que la grotte fera une salle où l'on aura frais et où l'on ira prendre le café. Votre père a eu là d'excellentes idées, répondit Madame de Vadeville, qui voulut aller voir les colonnes. Elle donna son approbation au projet du baron de Vadeville, en indiquant pour l'érection du monument une place au fond du jardin d'où l'on n'était pas vu de chez M. de Soulas, mais d'où l'on voyait admirablement chez M. Albert Savaron. Un entrepreneur fut mandé qui se chargea de faire une grotte au sommet de laquelle on parviendrait par un petit chemin de 3 pieds de large dans les rocailles duquel viendraient des pervenches, des iris, des viandes, des lierres, des chèvrefeuilles et même de la vigne vierge. La baronne inventa de faire tapisser l'intérieur de la grotte en bois rustique, alors à la mode, pour les jardinières, de mettre au fond une glace, un divan à couvercle et une table en marqueterie de bois grume. Monsieur de Soulas proposa de faire le sol en asphalte. Philomèle imagina de suspendre la voûte un lustre en bois rustique. Les Vaudevilles vont faire quelque chose de charmant dans leur jardin, disait-on en Besançon. Oh, ils sont riches, ils peuvent bien mettre 1 000 écus pour une fantaisie. 1 000 écus, dit madame de Javoncourt. Ah oui, 1 000 écus, s'écria le jeune monsieur de Soulas. On fait venir un homme de Paris pour rustiquer l'intérieur, mais ce sera bien joli. Monsieur de Vaudeville fait lui-même le lustre. Il se met à sculpter le bois. On dit que Berquet va creuser une cave, dit un abbé. Non, non, reprit le jeune monsieur de Soulas, il fonde le kiosque sur un massif en béton pour qu'il n'y ait pas d'humidité. Mais vous savez les moindres choses qui se font dans la maison, dit aigrement madame de Chavoncourt, en regardant une de ses grandes filles, bonne à marier depuis un an. Mademoiselle de Vatteville, qui éprouvait un petit mouvement d'orgueil en pensant au succès de son belvédère, se reconnut une éminente supériorité sur tout ce qui l'entourait. Personne ne devinait qu'une petite fille, jugée sans esprit, niaise, avait tout bonnement voulu voir de plus près le cabinet de l'avocat Savaron. L'éclatante plaidoirie d'Albert Savaron pour le chapitre de la cathédrale fut d'autant plus promptement oubliée que l'envie des avocats se réveilla. D'ailleurs, fidèle à sa retraite, Savaron ne se montra nulle part. Sans prôneur et ne voyant personne, il augmenta les chances d'oubli qui, dans une ville comme Besançon, abonde pour un étranger. Néanmoins, il plaida 3 fois au tribunal de commerce dans 3 affaires épineuses qui durent aller à la cour. Il eut ainsi pour client 4 des plus gros négociants de la ville, qui reconnurent en lui tant de sens de ce que la province appelle une bonne judiciaire, qui lui confièrent leur contentieux. Le jour où la maison Vaudeville inaugura son belvédère, Savaron élevait aussi son monument. Grâce aux relations sourdes qu'il s'était acquises dans le haut commerce de Besançon, il y fondait une revue de quinzaine appelée la Revue de l'Est, au moyen de 40 actions de chacune 500 francs placées entre les mains de ses 10 premiers clients, auxquels il fit sentir la nécessité d'aider aux destinées de Besançon, la ville où devait se fixer le transit entre Mulhouse et Lyon, le point capital entre le Rhin et le Rhône. Pour rivaliser avec Strasbourg, Besançon ne devait-il pas être aussi bien un centre de lumière qu'un point commercial? On ne pouvait traiter que dans une revue des hautes questions relatives à l'intérêt de l'Est. Quelle gloire de ravir à Strasbourg et à Dijon leur influence littéraire, d'éclairer l'Est de la France et de lutter avec la centralisation parisienne! Ces considérations, trouvées par Albert, furent redites par les 10 négociants qui se les attribuèrent. L'avocat Savaron ne commit pas la faute de se mettre en nom. Il laissa la direction financière à son premier client, M. Boucher, allié par sa femme à l'un des plus forts éditeurs de grands ouvrages ecclésiastiques. Mais il se réserva la rédaction avec une part comme fondateur dans les bénéfices. Le commerce fit un appel à Dôle, à Dijon, à Salins, à Neuchâtel dans le Jura, Bourg, Nantuat, L'Aulnay. On y réclama le concours des Lumières et les efforts de tous les hommes studieux des 3 provinces du Bugey, de la Bresse et de la Comté. Grâce aux relations de commerce et de confraternité, 150 abonnements furent pris eu égard au bon marché. La revue coûtait 8 francs par trimestre. Pour éviter de froisser les amours propres de province par les refus d'articles, l'avocat eut le bon esprit de faire désirer la direction littéraire de cette revue au fils aîné de M. Boucher, jeune homme de 22 ans, très avide de gloire, à qui les pièges et les chagrins de la manutention littéraire étaient entièrement inconnus. Albert conserva secrètement la haute main et se fit d'Alfred Boucher un séide. Alfred fut la seule personne de Besançon avec laquelle se familiarisa le roi du barreau. Albert venait conférer le matin dans le jardin avec Albert sur les matières de la livraison. Il est inutile de dire que le numéro d'essai contint une méditation d'Alfred qui eut l'approbation de Savaron. Dans sa conversation avec Alfred, Albert laissait échapper de grandes idées, des sujets d'articles dont profitait le jeune boucher. Aussi le fils du négociant croyait-il exploiter ce grand homme. Albert était un homme de génie, un profond politique pour Alfred. Les négociants, enchantés du succès de la revue, n'eurent à verser que 3/10 de leurs actions. Encore 200 abonnements, la revue allait doubler et allait donner 5% de dividendes à ses actionnaires, la rédaction n'étant pas payée. Cette rédaction était impayable. Au 3e numéro, la revue avait obtenu l'échange avec tous les journaux de France, qu'Albert fut alors chez lui. Ce 3e numéro contenait une nouvelle signée A.S. et attribuée au fameux avocat. Malgré le peu d'attention que la haute société de Besançon accordait à cette revue accusée de libéralisme, il fut question chez Madame de Chavoncourt, au milieu de l'hiver, de cette première nouvelle éclose dans la comté. « Mon père, » dit Philomène, « il se fait une revue à Besançon. Tu devrais bien t'y abonner et la garder chez toi, car maman ne me la laisserait pas lire, mais tu me la prêteras. » Empressée d'obéir à sa chère Philomène, qui depuis 5 mois lui donnait des preuves de tendresse, M. de Vatteville alla prendre lui-même un abonnement d'un an à la revue de l'Est et prêta les 4 numéros parus à sa fille. Pendant la nuit, Philomène put dévorer cette nouvelle, la première qu'elle lut de sa vie, mais ne se sentait vivre que depuis 2 mois. Aussi ne faut-il pas juger de l'effet que cette œuvre dut produire sur elle d'après les données ordinaires. Sans rien préjuger du plus ou du moins le mérite de cette composition due à un Parisien qui apportait en province la manière, l'éclat, si vous voulez, de la nouvelle école littéraire, elle ne pouvait point ne pas être un chef-d'œuvre pour une jeune personne livrant sa vierge intelligence, son cœur pur à un premier ouvrage de ce genre. D'ailleurs, sur ce qu'elle en avait entendu dire, Philomène s'était fait par intuition une idée qui rehaussait singulièrement la valeur de cette nouvelle. Elle espérait y trouver les sentiments et peut-être quelque chose de la vie d'Albert. Dès les premières pages, cette opinion prit chez elle une si grande consistance qu'après avoir achevé ce fragment, elle eut la certitude de ne pas se tromper. Voici donc cette confidence où, selon les critiques du Salon Chavancourt, Albert aurait imité quelques-uns des écrivains modernes qui, faute d'invention, racontent leur propre joie, leur propre douleur ou les événements mystérieux de leur existence. Albert Savarus, l'ambitieux par amour. En 1823, 2 jeunes gens qui s'étaient donné pour thème de voyage de parcourir la Suisse partirent de Lucerne par une belle matinée du mois de juillet sur un bateau que conduisaient 3 rameurs et allaient à Fluelen en se permettant de s'arrêter sur le lac des 4 cantons à tous les lieux célèbres. Les paysages qui de Lucerne à Fluelen environnent les eaux présentent toutes les combinaisons que l'imagination la plus exigeante peut demander aux montagnes et aux rivières, aux lacs et aux rochers, aux ruisseaux, et à la verdure et aux arbres et aux torrents. C'est tantôt d'austères solitudes et de gracieux promontoires, des vallées coquettes et fraîches, des forêts placées comme un panache sur le granit taillé droit, des baies solitaires et fraîches qui s'ouvrent, des vallées dont les trésors apparaissent embellis par le lointain des rêves. En passant devant le charmant bourg de Gersau, l'un des deux amis regarda longtemps une maison en bois qui paraissait construite depuis peu de temps, entourée d'un palis, assise sur un promontoire et presque baignée par les eaux. Quand le bateau passa devant, une tête de femme s'éleva du fond de la chambre qui se trouvait au dernier étage de cette maison pour jouir de l'effet du bateau sur le lac. L'un des jeunes gens reçut le coup d'œil jeté très indifféremment par l'inconnu. « Arrêtons-nous ici, » dit-il à son ami. « Nous voulions faire de Lucerne notre quartier général pour visiter la Suisse. Mais tu ne trouveras pas mauvais, Léopold, que je change d'avis et que je reste ici à garder les manteaux. Tu feras tout ce que tu voudras. Moi, mon voyage est fini. Mariniers, virez de bord et descendez-nous à ce village. Nous allons y déjeuner. J'irai chercher à Lucerne tout le bagage et tu sauras avant de partir d'ici dans quelle maison je me logerai pour m'y retrouver à ton retour. Ici ou à Lucerne, dit Léopold, il n'y a pas assez de différence pour que je t'empêche d'obéir à un caprice. » Ces deux jeunes gens étaient deux amis dans la véritable acception du terme. Ils avaient le même âge, leurs études s'étaient faites dans le même collège, et après avoir fini leurs droits, ils employaient les vacances au classique voyage de la Suisse. Par un effet de la volonté paternelle, Léopold était déjà promis à l'étude d'un notaire à Paris. Son esprit de rectitude, sa douceur, le calme de ses sens et de son intelligence garantissaient sa docilité. Léopold se voyait notaire à Paris. Sa vie était devenue en lui comme un de ces grands chemins qui traversent une plaine de France. Il l'embrassait dans toute ses étendues avec une résignation pleine de philosophie. Le caractère de son compagnon, que nous appellerons Rodolphe, offrait avec le sien un contraste dont l'antagonisme avait sans doute eu pour résultat de resserrer les liens qui les unissaient. Rodolphe était le fils naturel d'un grand seigneur qui fut surpris par une mort prématurée sans avoir pu faire de disposition pour assurer les moyens d'existence à une femme tendrement aimée et à Rodolphe. Ainsi trompée par un coup du sort, la mère de Rodolphe avait eu recours à un moyen héroïque. Elle vendit tout ce qu'elle tenait de la munificence du père de son enfant, fit une somme de 100 et quelques 1000 francs, la plaça sur sa propre tête en viager à un taux considérable et se composa de cette manière un revenu d'environ 15 000 francs, en prenant la résolution de tout consacrer à l'éducation de son fils afin de le douer des avantages personnels les plus propres à faire fortune et de lui réserver à force d'économie un capital à l'époque de sa majorité. C'était hardi, c'était compter sur sa propre vie, mais sans cette hardiesse, il eût été sans doute impossible à cette bonne mère de vivre, d'élever convenablement cet enfant, son seul espoir, son avenir et l'unique source de ses jouissances. Née d'une des plus belles charmantes parisiennes et d'un homme remarquable de l'aristocratie brabançonne, fruit d'une passion égale et partagée, Rodolphe fut affligé d'une excessive sensibilité. Dès son enfance, il avait manifesté la plus grande ardeur en toutes choses. Chez lui, le désir devint une force supérieure et le mobile de tout l'être, le stimulant de l'imagination, la raison de ses actions. Malgré les efforts d'une mère spirituelle, qui s'effraya dès qu'elle s'aperçut d'une pareille prédisposition, Rodolphe désirait, comme un poète imagine, comme un savant calcule, comme un peintre crayonne, comme un musicien formule des mélodies. Tendre comme sa mère, il s'élançait avec une violence inouïe et par la pensée vers la chose souhaitée. Il dévorait le temps. En rêvant l'accomplissement de ses projets, il supprimait toujours les moyens d'exécution. « Quand mon fils aura des enfants, » dirait la mère, « il les voudra grands tout de suite. » Cette belle ardeur, convenablement dirigée, servit à Rodolphe à faire de brillantes études, à devenir ce que les Anglais appellent un parfait gentilhomme. Sa mère était alors fière de lui, tout en craignant toujours quelques catastrophes, si jamais une passion s'emparait de ce cœur à la fois si tendre et si sensible, si violent et si bon. Aussi cette prudente femme avait-elle encouragé l'amitié qui liait Léopold à Rodolphe et Rodolphe à Léopold, en voyant dans le froid et dévoué notaire un tuteur, un confident, qui pourrait jusqu'à un certain point la remplacer auprès de Rodolphe, si par malheur elle venait à lui manquer. Encore belle, à 43 ans, la mère de Rodolphe avait inspiré la plus vive passion à Léopold. Cette circonstance rendait les deux jeunes gens encore plus intimes. Léopold, qui connaissait bien Rodolphe, ne fut donc pas surpris de le voir à propos d'un regard jeté sur le haut d'une maison, s'arrêtant à un village et renonçant à l'excursion projetée au Saint-Gothard. Pendant qu'on leur préparait à déjeuner à l'auberge du Cygne, les deux amis firent le tour du village et arrivèrent dans la partie qui avoisinait la charmante maison neuve, où, tout en flânant et causant avec les habitants, Rodolphe découvrit une maison de petits bourgeois disposés à le prendre en pension selon l'usage assez général de la Suisse. On lui offrit une chambre ayant vue sur le lac, sur les montagnes et d'où se découvrait la magnifique vue d'un de ces prodigieux détours qui recommande le lac des Quatre Cantons à l'admiration des touristes. Cette maison se trouvait séparée par un carrefour et par un petit port de la maison neuve où Rodolphe avait entrevu le visage de la belle inconnue. Pour 100 francs par mois, Rodolphe n'eut à penser à aucune des choses nécessaires à la vie. Mais en considération des frais que les époux Stopfer se proposaient de faire, ils demandèrent le paiement du 3e mois d'avance. « Pour peu que vous frottiez un Suisse, il reparaît un usurier. » Après le déjeuner, Rodolphe s'installa sur le champ en déposant dans sa chambre ce qu'il avait emporté d'effet pour son excursion au Saint-Gothard, et il regarda passer Léopold, qui, par esprit d'ordre, allait s'acquitter de l'excursion pour le compte de Rodolphe et pour le sien. Quand Rodolphe, assis sur une roche tombée en avant du bord, ne vit plus le bateau de Léopold, il examina, mais en dessous, la maison neuve, en espérant apercevoir l'inconnu. Hélas, il rentra sans que la maison eût donné signe de vie. Au dîner que lui offrirent M. et Mme Stopfer, ancien tonnelier à Neuchâtel, il les questionna sur les environs et finit par apprendre tout ce qu'il voulait savoir sur l'inconnu grâce au bavardage de ses hôtes qui vidèrent sans se faire prier leur sac au commérage. L'inconnu s'appelait Fanny Lovelace. Ce nom, qui ne se prononce « Loveless », appartient à de vieilles familles anglaises. Mais Richardson en a fait une création dont la célébrité nuit à tout autre. Miss Loveless était venue s'établir sur le lac pour la santé de son père, à qui les médecins avaient ordonné l'air du canton de Lucerne. Ces deux Anglais, arrivés sans autre domestique qu'une petite fille de 14 ans, très attachée à Miss Fanny, une petite muette qui la servait avec intelligence, s'était arrangée avant l'hiver dernier avec M. et Mme Bergman, ancien jardinier en chef de son Excellence le comte Borromeo, à l'Isola Bella et à l'Isola Madre, sur le lac Majeur. Ces Suisses, riches d'environ 1 000 écus de rente, louaient l'étage supérieur de leur maison au Loveless à raison de 200 francs par an pour 3 ans. Le vieux Loveless, vieillard nonagénaire, très cassé, trop pauvre pour se permettre certaines dépenses, sortait rarement. Sa fille travaillait pour le faire vivre en traduisant, disait-on, des livres anglais et faisant elle-même ses livres. Aussi, les Loveless n'osaient-ils ni louer de bateau pour se promener sur le lac, ni chevaux, ni guides pour visiter les environs. Un dénuement qui exige de pareilles privations excite d'autant plus la compassion des Suisses, qu'ils y perdent une occasion de gain. La cuisinière de la maison nourrissait ses trois Anglais à raison de 100 francs par mois, tout compris. Mais on croyait dans tout Gersau que les anciens jardiniers, malgré leurs prétentions de la bourgeoisie, se cachaient sous le nom de leur cuisinière pour réaliser les bénéfices de ce marché. Les Bergmann s'étaient créés d'admirables jardins et une serre magnifique autour de leur habitation. Les fleurs, les fruits, les raretés botaniques de cette habitation avaient déterminé la jeune Miss à la choisir à son passage à Gersau. On donnait 19 ans à Miss Fanny, qui, le dernier enfant de ce vieillard, devait être adulée par lui. Il n'y avait pas plus de 2 mois, elle s'était procuré un piano à loyer venu de Lucerne, car elle paraissait folle de musique. Elle aime les fleurs et la musique, pensa Rodolphe, et elle est à marier. Oh, quel bonheur! Le lendemain, Rodolphe fit demander la permission de visiter les serres et les jardins qui commençaient à jouir d'une certaine célébrité. Cette permission ne fut pas immédiatement accordée. Ces anciens jardiniers demandèrent, chose étrange, à voir le passeport de Rodolphe, qu'il envoya sur le champ. Le passeport ne lui fut renvoyé que le lendemain par la cuisinière, qui lui fit part du plaisir que ses maîtres auraient à lui montrer leur établissement. Rodolphe n'alla pas chez les Bergmann sans un certain tressaillement que connaissent seuls les gens à émotions vives et qui déploient dans un moment autant de passion que certains hommes en dépensent pendant toute leur vie. Mis avec recherche pour plaire aux anciens jardiniers des îles Borromée, car il vit en eux les gardiens de son trésor, il parcourut les jardins en regardant de temps en temps la maison, mais avec prudence. Les deux vieux propriétaires lui témoignaient d'une assez visible défiance. Mais son attention fut bientôt excitée par la petite Anglaise muette, en qui sa sagacité, quoique jeune encore, lui fit reconnaître une fille de l'Afrique, en tout au moins une Sicilienne. Cette petite fille avait le ton doré d'un cigare de la Havane, des yeux de feu, des paupières arméniennes à cils d'une longueur anti-britannique, des cheveux plus que noirs et, sous cette peau presque olivâtre, des nerfs d'une force singulière, d'une vivacité fébrile. Elle jetait sur Rodolphe des regards réquisiteurs d'une effronterie incroyable et suivait ses moindres mouvements. À qui cette petite mauresque appartient-elle? Dit-il à la respectable Madame Bergmann. Aux Anglais, répondit Monsieur Bergmann. Elle n'est toujours pas née en Angleterre. Il aura peut-être amené des Indes, répondit Madame Bergmann. On m'a dit que la jeune Miss Lovelace aimait la musique. Oh, je serais enchanté si, pendant mon séjour sur ce lac auquel me condamne une ordonnance de médecin, elle voulait me permettre de faire de la musique avec elle. Bon, ils ne reçoivent et ne veulent voir personne, dit le vieux jardinier. Rodolphe se mordit les lèvres et sortit sans avoir été invité à entrer dans la maison, ni avoir été conduit dans la partie du jardin qui se trouvait entre la façade et le bord du promontoire. De ce côté, la maison avait au-dessus du premier étage une galerie en bois, couverte par le toit, dont la saillie était excessive comme celle des couvertures de chalet, et qui tournait sur les quatre côtés du bâtiment à la mode suisse. Rodolphe avait beaucoup loué cette élégante disposition et vanté la vue de cette galerie, mais ce fut en vain. Quand il eut salué les Bergmann, il se trouva sot vis-à-vis de lui-même, comme tout homme d'esprit et d'imagination trompé par l'insuccès d'un plan à la réussite auquel il a cru. Le soir, il se promena naturellement en bateau sur le lac, autour de ce promontoire. Il alla jusqu'à Brunnen, à Schwitz, et revint à la nuit tombante. De loin, il aperçut la fenêtre ouverte et fortement éclairée. Il put entendre les sons du piano et les accents d'une voix délicieuse. Aussi fit-il arrêter afin de s'abandonner au charme d'écouter un air italien divinement chanté. Quand le chant eut cessé, Rodolphe aborda, renvoya la barque les deux bateliers. Au risque de se mouiller les pieds, il va s'asseoir sous le banc de granit rongé par les eaux que couronnait une forte haie d'acacias épineux et le long de laquelle s'étendait dans le jardin Bergman une allée de jeunes tilleuls. Au bout d'une heure, il entendit parler et marcher au-dessus de sa tête, mais les mots qui parvinrent à son oreille étaient tous italiens et prononcés par deux voix de femmes, de jeunes femmes. Il profita du moment où les deux interlocutrices se trouvaient à une extrémité pour se glisser à l'autre sans bruit. Après une demi-heure d'effort, il atteignit au bout de l'allée et put, sans en être aperçu ni entendu, prendre une position d'où il verrait les deux femmes sans être vu par elles quand elles viendraient à lui. Quel ne fut pas l'étonnement de Rodolphe en reconnaissant la petite Muette pour une des deux femmes. Elle parlait en italien avec Miss Lovelace. Il était alors 11 heures du soir. Le calme était si grand sur le lac et surtout autour de l'habitation que ces deux femmes devaient se croire en sûreté. Dans tout Gersau, il n'y avait que leurs yeux qui pussent être ouverts. Rodolphe pensa que le mutisme de la petite était une ruse nécessaire. À la manière dont se parlait l'italien, Rodolphe devina que c'était la langue maternelle de ces deux femmes. Il en conclut que la qualité d'anglais cachait une ruse. « C'est des Italiens réfugiés !» se dit-il. Des proscrits qui sans doute ont à craindre la police de l'Autriche ou celle de la Sardaigne. La jeune fille attend la nuit pour pouvoir se promener et causer en toute sûreté. Alors il se coucha le long de la haie et rampa comme un serpent pour trouver un passage entre deux racines d'acacia. Au risque d'y laisser son habit ou de se faire de profondes blessures au dos, il traversa la baie quand la prétendue Miss Fanny et sa prétendue Muette furent à l'autre extrémité de l'allée. Puis quand elles arrivèrent à 20 pas de lui, sans le voir, car il se trouvait dans l'ombre de la haie, alors fortement éclairée par la lueur de la lune, il se leva brusquement. « Ne craignez rien, dit-il en français à l'italienne, je ne suis pas un espion. » « Vous êtes des réfugiés, je l'ai deviné. Moi, je suis un Français, qu'un seul de vos regards a cloué à Gersau. » Rodolphe, atteint par la douleur que lui causa un instrument d'acier en lui déchirant le flanc, tomba terrassé. « Nel lago con pietra !» dit la terrible Muette. « Oh, Gina !» s'écria l'italienne. « Elle m'a manqué !» dit Rodolphe, en retirant de la plaie un stylet qui s'était heurté contre une fausse côte. Mais un peu plus haut, il allait au fond de mon cœur. « J'ai eu tort, Francesca, » dit-il en se souvenant du nom que la petite Gina avait plusieurs fois prononcé. « Ne lui en veux pas, ne la grondez point. Le bonheur de vous parler vaut bien un coup de stylet. Seulement montrez-moi le chemin. Il faut que je regagne la maison Stopfer. Soyez tranquille, je ne dirai rien. » Francesca, revenue de son étonnement, aida Rodolphe à se relever et dit quelques mots à Gina, dont les yeux s'emplirent de larmes. Les deux femmes forcèrent Rodolphe à s'asseoir sur un banc, à quitter son habit, son gilet, sa cravate. Gina ouvrit la chemise et suça fortement la plaie. Francesca, qui les avait quittés, revint avec un large morceau de taffetas d'Angleterre et l'appliqua sur la blessure. Vous pourrez aller ainsi jusqu'à votre maison, reprit-elle. Chacune d'elles s'empara d'un bras et Rodolphe fut conduit à une petite porte dont la clé se trouvait dans la poche du tablier de Francesca. Gina parle-t-elle français ? Dit Rodolphe à Francesca. Non, non, mais ne vous agitez pas, dit Francesca d'un petit ton d'impatience. « Laissez-moi vous voir, » répondit Rodolphe avec attendrissement, « car peut-être serai-je longtemps sans pouvoir venir. » Il s'appuya sur un des poteaux de la petite porte et contempla la belle italienne, qui se laissa regarder pendant un instant par le plus beau silence et par la plus belle nuit qui jamais ait éclairé ce lac, le roi des lacs suisses. Francesca était bien l'italienne classique et telle que l'imagination veut, fait ou rêve, si vous voulez, les italiennes. Ce qui saisit tout d'abord Rodolphe, ce fut l'élégance et la grâce de la taille dont la vigueur se trahissait malgré son apparence frêle, tant elle était souple. Une pâleur d'ambre répandue sur la figure accusait un intérêt subit, mais qui ne s'effaçait pas à la volupté de deux yeux humides et d'un noir velouté. Deux mains, les plus belles que jamais sculpteur grec ait attachées au bras poli d'une statue, tenaient le bras de Rodolphe, et leur blancheur tranchait sur le noir de l'habit. L'imprudent français ne put qu'entrevoir la forme ovale un peu longue du visage, dont la bouche attristée et entr'ouverte laissait voir des dents éclatantes entre deux larges lèvres fraîches et colorées. La beauté des lignes de ce visage garantissait à Francesca la durée de cette splendeur. Mais ce qui frappa le plus Rodolphe fut l'adorable laisser-aller, la franchise italienne de cette femme qui s'abandonnait entièrement à sa compassion. Francesca dit un mot à Gina, qui donna son bras à Rodolphe jusqu'à la maison Stopfer, et se sauva comme une hirondelle quand elle eut sonné. Ces patriotes n'y vont pas de main morte, se disait Rodolphe en sentant ses souffrances quand il se trouva seul dans son lit. Nel lago, Gina m'aurait jeté dans le lac avec une pierre au cou. Au jour, il envoya chercher à Lucerne le meilleur chirurgien, et quand il fut venu, il lui recommanda le plus profond secret en lui faisant entendre que l'honneur l'exigeait. Léopold revint de son excursion le jour où son ami quittait le lit. Rodolphe fit un compte et le chargea d'aller à Lucerne chercher les bagages et leurs lettres. Léopold apporta la plus funeste, la plus horrible nouvelle. La mère de Rodolphe était morte. Pendant que les deux amis allaient de Bâle à Lucerne, la fatale lettre écrite par le père de Léopold y était arrivée le jour de leur départ pour Fiolaine. Malgré les précautions que prit Léopold, Rodolphe fut saisi par une fièvre nerveuse. Dès que le futur notaire vit son ami hors de danger, il partit pour la France muni d'une procuration. Rodolphe resté à Gersau, le seul lieu du monde où sa douleur pouvait se calmer. La situation du jeune Français, son désespoir et les circonstances qui rendaient cette perte plus affreuse pour lui que pour tout autre, furent connues et attirèrent sur lui la compassion et l'intérêt de tout Gersau. Chaque matin, la fausse muette vint voir le Français afin de donner des nouvelles à sa maîtresse. Quand Rodolphe put sortir, il alla chez les Bergmann, remercier Miss Fanny Loveless et son père de l'intérêt qu'il lui avait témoigné. Pour la première fois depuis son établissement chez les Bergmann, le vieil Italien laissa pénétrer un étranger dans son appartement, où Rodolphe fut reçu avec une cordialité due à ses malheurs et à sa qualité de Français qui excluait toute défiance. Francesca se montra si belle aux lumières pendant la première soirée qu'elle fit entrer un rayon dans ce cœur abattu. Ses sourires jetèrent les roses de l'espérance sur ce deuil. Elle chanta non point des airs gais, mais de graves et sublimes mélodies appropriées à l'état du cœur de Rodolphe, qui remarqua ce soin touchant. Vers 8 heures, le vieillard laissa ces deux jeunes gens seuls sans aucune apparence de crainte et se retira chez lui. Quand Francesca fut fatiguée de chanter, elle amena Rodolphe sous la galerie extérieure, d'où se découvrait le sublime spectacle du lac, et lui fit signe de s'asseoir près d'elle sur un banc de bois rustique. « Y a-t-il de la discrétion à vous demander votre âge, cara Francesca ?» fit Rodolphe. 19 ans, répondit-elle, m'est passé. Si quelque chose au monde pouvait atténuer ma douleur, ce serait, reprit-il, l'espoir de vous obtenir de votre père. Dans quelque situation de fortune que vous soyez, belle comme vous êtes, vous me paraissez plus riche que ce serait la fille d'un prince. Aussi tremblais-je en vous faisant l'aveu des sentiments que vous m'avez inspirés. Mais ils sont profonds, ils sont éternels. Sitôt, fit Francesca en mettant un des doigts de sa main droite sur ses lèvres. N'allez pas plus loin. Je ne suis pas libre. Je suis mariée depuis 3 ans. Un profond silence régna pendant quelques instants entre eux. Quand l'Italienne, effrayée de la pose de Rodolphe, s'approcha de lui, elle le trouva tout à fait évanoui. « Povero !» se dit-elle, « moi qui le trouvais froid. » Elle alla chercher des sels et ranima Rodolphe en les lui faisant respirer. « Mariée !» dit Rodolphe en regardant Francesca. Ses larmes coulèrent alors en abondance. « L'enfant, dit-elle, oui, mais il y a de l'espoir. Mon mari a... »« 80 ans, dit Rodolphe. « Oh non, répondit-elle en souriant. « 65, il s'avait un masque de vieillard pour déjouer la police. »« Cher, dit Rodolphe, encore quelques émotions de ce genre et je mourrai. » Après 20 années de connaissance seulement, vous saurez quelle est la force et la puissance de mon cœur, de quelle nature sont ses aspirations vers le bonheur. Cette plante ne monte pas avec plus de vivacité pour s'épanouir aux rayons du soleil, dit-il en montrant un jasmin de Virginie qui enveloppait la balustrade, que je ne me suis attaché depuis 1 mois à vous. Je vous aime d'un amour unique. Cet amour sera le principe secret de ma vie et j'en mourrai peut-être. « Oh, Français, Français !» dit-elle en commettant son exclamation par une petite moue d'incrédulité. « Ne te faudra-t-il pas vous attendre, vous recevoir des mains du temps ?» reprit-il avec gravité. « Mais sachez-le, si vous êtes sincère dans la parole qui vient de vous échapper, je vous attendrai fidèlement, sans laisser aucun autre sentiment croître dans mon cœur. » Elle le regarda sournoisement. « Rien, dit-il, pas même une fantaisie. J'ai ma fortune à faire, il vous en faut une splendide. La nature vous a créé princesse. » À ce mot, Francesca ne put retenir un faible sourire qui donna l'expression la plus ravissante à son visage, quelque chose de fin comme ce que le grand Léonard a si bien peint dans la Joconde. Ce sourire fit faire une pause à Rodolphe. « Oui, reprit-il, vous devez souffrir du dénuement auquel vous réduit cet exil. Ah, si vous voulez me rendre heureux entre tous les hommes et sanctifier mon amour, vous me traiterez en ami. Ne dois-je pas être votre ami aussi ? Ma pauvre mère m'a laissé 60 000 francs d'économie. Prenez-en la moitié. » Francesca le regarda fixement. Ce regard perçant alla jusqu'au fond de l'âme de Rodolphe. « Nous n'avons besoin de rien, mes travaux suffisent à notre luxe, » répondit-elle d'une voix grave. « Ne puis-je souffrir qu'une Francesca travaille ? » s'écria-t-il. « Un jour vous reviendrez dans votre pays et vous y retrouverez ce que vous y avez laissé. » De nouveau, la jeune Italienne regarda Rodolphe. « Et vous rendrez ce que vous aurez daigné m'emprunter, » ajouta-t-il avec un regard plein de délicatesse. « Laissons ce sujet de conversation, » dit-elle avec une incomparable noblesse de gestes, de regard et d'attitude. « Faites une brillante fortune. Soyez un des hommes remarquables de votre pays, je le veux. L'illustration est un pont volant qui peut servir à franchir un abîme. Soyez ambitieux, il le faut. Je vous crois de hautes et puissantes facultés. Mais servez-vous-en plus pour le bonheur de l'humanité que pour me mériter. Vous en serez plus grand à mes yeux. » Dans cette conversation qui dura 2 heures, Rodolphe découvrit en Francesca l'enthousiasme des idées libérales et ce culte de la liberté qui avait fait la triple révolution de Naples, du Piémont et d'Espagne. En sortant, il fut conduit jusqu'à la porte par Gina, la fausse muette. À 11 heures, personne ne rôdait dans ce village, aucune indiscrétion n'était à craindre. Rodolphe attira Gina dans un coin et lui demanda tout bas, en mauvais italien, « Qui sont tes maîtres, mon enfant? Dis-le-moi, je te donnerai cette pièce d'or toute neuve. » « Monsieur, répondit l'enfant en prenant la pièce, monsieur le fameux libraire Lamporani de Milan, l'un des chefs de la Révolution et le conspirateur que l'Autriche désire le plus tenir au Spielberg. » « La femme de libraire, oh, tant mieux, pensa-t-il, mais nous sommes de plein pied. »« Et de quelle famille est-elle ? » reprit-il, « car elle a l'air d'une reine. » Toutes les Italiennes sont ainsi, répondit fièrement Gina. Le nom de son père est Colonna. Enhardi par l'humble condition de Francesca, Rodolphe fit mettre un temps de lait à sa barque et des coussins à l'arrière. Quand ce changement fut opéré, l'amoureux vint proposer à Francesca de se promener sur le lac. L'Italienne accepta, sans doute pour jouer son rôle de jeune miss aux yeux du village. Mais elle emmena Gina. Les moindres actions de Francesca Colonna trahissaient une éducation supérieure et le plus haut rang social. À la manière dont s'assit l'Italienne au bout de la barque, Rodolphe se sentit en quelque sorte séparé d'elle. Et devant l'expression d'une vraie fierté de noble, sa familiarité préméditée tomba. Par un regard, Francesca se fit princesse avec tous les privilèges dont elle eût joui au Moyen-Âge. Elle semblait avoir deviné les secrets de pensée de ce vassal qui avait l'audace de se constituer son protecteur. Déjà dans l'ameublement du salon, Francesca l'avait reçu dans sa toilette et dans les petites choses qui lui servaient. Rodolphe avait reconnu les indices d'une nature élevée et d'une haute fortune. Toutes ces observations lui revinrent à la fois dans la mémoire et il devint rêveur après avoir été, pour ainsi dire, refoulé par la dignité de Francesca. Gina, cette confidente à peine adolescente, semblait elle-même avoir un masque railleur en regardant Rodolphe en dessous ou de côté. Ce visible désaccord entre la condition de l'Italienne et ses manières fut une nouvelle énigme pour Rodolphe, qui soupçonna quelque autre ruse semblable au faux mutisme de Gina. « Où voulez-vous aller, Signora Lamporani ?» dit-il. « Vers Lucerne, » répondit en français Francesca. « Bon, » pensa Rodolphe, « elle n'est pas étonnée de m'entendre lui dire son nom. Oh, elle avait sans doute prévu ma demande à Gina, à la rusée. » « Mais qu'avez-vous contre moi ?» dit-il en venant enfin s'asseoir près d'elle et lui demandant par un geste une main que Francesca retira. « Vous êtes froide et cérémonieuse. En style de conversation, nous dirions cassante. »« C'est vrai, » répliqua-t-elle en souriant. « J'ai tort, oui. Ce n'est pas bien. C'est bourgeois. Vous diriez en français, ce n'est pas artiste. Il vaut mieux s'expliquer que de garder contre un manie des pensées hostiles ou froides, et vous m'avez prouvé déjà votre amitié. Peut-être suis-je allé trop loin avec vous. Vous avez dû me prendre pour une femme très ordinaire. » Rodolphe multiplia des signes de dénégation. « Oui, » dit cette femme de libraire en continuant sans tenir compte de la pantomime qu'elle voyait bien d'ailleurs. « Je m'en suis aperçu, et naturellement, je reviens sur moi-même. » « Eh bien, je terminerai tout par quelques paroles d'une profonde vérité. Sachez-le bien, Rodolphe, je sens en moi la force d'étouffer un sentiment qui ne serait pas en harmonie avec les idées ou la prescience que j'ai du véritable amour. Je puis aimer comme nous savons aimer en Italie, mais je connais mes devoirs. Aucune ivresse ne peut me les faire oublier. Marié sans mon consentement à ce pauvre vieillard, Je pourrais juger de la liberté qu'il me laisse avec tant de générosité, mais 3 ans de mariage équivalent à une acceptation de la loi conjugale. Aussi la plus violente passion ne me ferait-elle pas émettre, même involontairement, le désir de me trouver libre. Emilio connaît mon caractère. Il sait que hors mon cœur qui m'appartient et que je puis livrer, je ne me permettrai pas de laisser prendre ma main. Voilà pourquoi je viens de vous la refuser. Je veux être aimé et attendu avec fidélité, noblesse, ardeur, en ne pouvant accorder qu'une tendresse infinie dont l'expression ne dépassera point l'enceinte du cœur, le terrain permis. Toutes ces choses bien comprises, « Oh !» reprit-elle avec un geste de jeune fille, « je vais redevenir coquette, rieuse, folle comme un enfant qui ne connaît pas le danger de la familiarité. » Cette déclaration, si nette, si franche, fut faite d'un ton, d'un accord et accompagnée de regards qui lui donnèrent la plus profondeur de vérité. « Une princesse Colonna n'aurait pas mieux parlé, » dit Rodolphe en souriant. « Est-ce, répliqua-t-elle avec un air de hauteur, un reproche sur l'humilité de ma naissance? Faut-il un blason à votre amour? Un Milan, les plus beaux noms, Sforza, Canova, Visconti, Trivulzio, Ursini, sont écrits au-dessus des boutiques. Il y a des Argento apothicaires. Mais croyez que malgré ma condition de boutiquière, j'ai les sentiments d'une duchesse. » Un reproche, non, madame, j'ai voulu vous faire un éloge. Par une comparaison, dit-elle avec finesse. Oh, sachez-le, reprit-il, afin de ne plus me tourmenter, si mes paroles peignaient mal mes sentiments, mon amour est absolu, il comporte une obéissance et un respect infini. Elle inclina la tête en femme satisfaite et dit : Monsieur accepte alors le traité ? « Oui, dit-il, je comprends que, dans une puissante et riche organisation de femmes, la faculté d'aimer ne saurait se perdre et que, par délicatesse, vous vouliez la restreindre. Oh, Francesca, une tendresse partagée à mon âge et avec une femme aussi sublime, aussi royalement belle que vous l'êtes, mais c'est voir tous mes désirs comblés. » Vous aimez comme vous voulez être aimé, mais n'est-ce pas pour un jeune homme se préserver de toutes les folies mauvaises? N'est-ce pas employer ses forces dans une noble passion de laquelle on peut être fier plus tard et qui ne donne que de beaux souvenirs? Si vous saviez de quelle couleur, de quelle poésie vous venez de revêtir la chaîne du Pilate, le Rigi et ce magnifique bassin. Mais je veux le savoir, dit-elle. Eh bien, cette heure rayonnera sur toute ma vie comme un diamant au front d'une reine. Pour toute réponse, Francesca posa sa main sur celle de Rodolphe. Oh, cher, à jamais cher, dites, vous n'avez jamais aimé? Jamais. Et vous me permettez de vous aimer noblement en attendant tout du ciel? Elle inclina doucement la tête. Deux grosses larmes roulèrent sur les joues de Rodolphe. « Eh bien, qu'avez-vous ? » dit-elle, en quittant son rôle d'impératrice. Ben, « je n'ai plus ma mère pour lui dire combien je suis heureux. Elle a quitté cette terre sans voir ce qui eût adouci son agonie. »« Quoi ? » fit-elle. Sa tendresse remplacée par une tendresse égale. « Povero mio !» s'écria l'Italienne attendrie. « C'est, croyez-moi, reprit-elle après une pause, une bien douce chose et un bien grand élément de fidélité pour une femme, que de se savoir tout sur la terre pour celui qu'elle aime, de le voir seul, sans famille, sans rien dans le cœur que son amour, enfin, de l'avoir bien tout entier. » Quand deux amants se sont entendus ainsi, le cœur éprouve une délicieuse quiétude, une sublime tranquillité, la certitude de la base que veulent les sentiments humains, car ils ne manquent jamais aux sentiments religieux. L'homme est toujours certain d'être payé de retour par Dieu. L'amour ne se croit en sûreté que par cette similitude avec l'amour divin. Aussi il faut-il les avoir pleinement éprouvés pour comprendre les voluptés de ce moment, toujours unique dans la vie. Il ne revient pas plus que ne reviennent les émotions de la jeunesse. Croire à une femme, faire d'elle sa religion humaine, le principe de sa vie, la lumière secrète de ses moindres pensées, n'est-ce pas une seconde naissance? Un jeune homme mêle alors à son amour un peu de celui qu'il a pour sa mère. Rodolphe et Francesca gardèrent pendant quelque temps le plus profond silence, se répondant par des regards amis et pleins de pensées. Ils se comprenaient au milieu d'un des plus beaux spectacles de la nature, dont les magnifiques sens expliqués par celles de leur cœur les aidaient à se graver dans leur mémoire les plus fugitives impressions de cette heure unique. Il n'avait pas eu l'ombre de coquetterie dans la conduite de Francesca. Tout en était large, plein, sans arrière-pensée. Cette grandeur frappa vivement Rodolphe, qui reconnaissait en ceci la différence qui distingue l'italienne de la française. Les eaux, la terre, le ciel, la femme, tout fut donc grandiose et suave, même leur amour, au milieu de ce tableau vaste dans son ensemble, riche dans ses détails, et où l'âpreté des cimes neigeuses, leurs plis raides nettement détachés sur l'azur, rappelait à Rodolphe les conditions dans lesquelles devait se renfermer son bonheur. Un riche pays cerclé de neige.